toutes et tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Au Bon Soin, l'émission du magazine Sané. Je m'appelle Stéphanie, je suis rédactrice en chef des magazines Sané et Épicurienne Lotoise, qui sont des magazines régionaux, et on parle souvent d'actualité, de bien-être, de gastronomie. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je reçois Claire Vidal, qui est kinésiologue à Villeneuve-d'Aveyron. Et on va parler de mort et de renaissance. Bonjour Claire.
Bonjour Stéphanie.
Comment vas-tu ?
Eh bien écoute, ça va très très bien. Je suis très contente d'être ici et de faire pour la première fois une expérience de radio.
Ah, c'est vrai que des fois ça peut être un peu impressionnant, mais bon, après généralement ça se passe bien.
Oui, mais je suis en confiance.
Alors nous on s'est rencontrés pour le magazine Sané, on a parlé de bien-être, de mort et de renaissance, mais pas sous la forme qu'on peut régulièrement voir la mort d'un côté négatif. On a parlé plutôt d'un cycle de vie. Alors avant d'aborder ce sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais dans ton travail, tes hobbies, ce que tu aimes?
Ok. Alors, pour me présenter, par où commencer ? Donc moi, je suis kinésiologue, je suis installée du coup depuis un an, maintenant à Villeneuve-d'Aveyron. Avant, j'ai été travailleur social pendant une dizaine d'années sur Toulouse. Donc voilà, c'est une expérience qui vient compléter aujourd'hui les accompagnements que je propose dans mon travail. Alors, peut-être que je peux parler un petit peu rapidement de la kinésiologie. C'est un accompagnement qui est basé sur une méthode psychocorporelle. Donc, on aborde les choses et la personne de façon globale, en intégrant le corps, l'esprit et puis le cœur aussi, qui sont les émotions. Et donc, moi, au travers du test musculaire, je vais dialoguer en fait avec le corps de la personne pour pouvoir en fait explorer avec elle l'origine de ses blocages qui ne lui permettent pas en fait d'atteindre le bien-être qu'elle souhaiterait, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental. Je décode en fait avec elle ce qui bloque et on voit ensemble du coup quelles seraient les équilibrations qui pourraient lui être bénéfiques et favoriser en fait sa propre autorégulation pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Donc cette méthode-là, la kinésiologie que je pratique, elle est inspirée du coup des méthodes de la médecine chinoise traditionnelle, de la chiropraxie, de l'ostéopathie, de la naturopathie. J'ai aussi une formation en analyse transactionnelle, l'aspect un peu plus psychologique, et des connaissances en tout ce qui est communication non violente et des neurosciences. Donc voilà en quelques mots comment je peux présenter ma pratique. J'aime beaucoup ce que je fais et la façon dont je l'aborde. Et je suis vraiment très contente d'être là aussi pour pouvoir venir évoquer un sujet comme la mort et la renaissance qui justement en fait peuvent être abordés sous tous les angles. C'était aussi ce que tu souhaitais. Et justement, moi j'avais déjà discuté avec toi à ce sujet et j'aimais bien la possibilité de l'aborder sur l'angle physique, sur l'angle émotionnel, sur l'angle psychologique, philosophique. Donc voilà pour les quelques mots.
Donc déjà, pour revenir vite fait sur la kinésiologie, en fait c'est vraiment une approche qui est globale. En plus, tu disais qu'il y a un aspect psychologique aussi dans ta démarche. Donc, il y a vraiment une approche globale de l'être humain, en fait, et de l'environnement, de son environnement.
Oui, tout à fait. Une approche globale, puisque l'on s'adresse, du coup, à l'esprit de la personne, à ses capacités cognitives, à comprendre, à prendre conscience des choses. On aborde les choses aussi sur le plan psychologique, émotionnel, sur ses ressentis, ce qu'elle peut vraiment vivre en termes d'émotions. Sur le plan énergétique aussi, puisque on est constitué en fait d'un système nerveux qui est très prolixe et du coup dans lequel circule en fait une forme d'électricité. Et donc sur le plan énergétique, on peut être amené aussi à avoir besoin de faire des équilibrations. Et donc cet ensemble-là fait la globalité d'un être. Et effectivement, la kinésiologie n'aborde pas ces choses de façon isolée, mais bel et bien ensemble, puisque tout est lié en fait entre ces sphères-là dans le corps humain.
Mmh, bien sûr. Et pour en revenir à ce sujet, ce thème de mort et de renaissance, c'est vrai que quand on parle de la mort, on pense toujours à la mort d'un être cher, quelqu'un qu'on a perdu. Et il y a aussi une autre approche quand même, rien que dans notre corps humain, nos cellules meurent chaque jour et puis se renouvellent. Donc il y a quand même un vrai cycle de vie.
Effectivement, ce cycle que j'appelle vie-mort-vie, alors je prends cette expression d'une autrice qui a écrit un livre qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Estes Pincoles, je crois que je dis bien la bonne chose. Et effectivement, c'est un cycle en fait, comme les saisons dans la nature, dans l'environnement, comme notre corps, nos âges ont des saisons aussi, nos fonctionnements internes, effectivement, sont basés sur des cycles. Et tout ça en fait est infini, quoi. La mort n'est pas une fin en soi et la vie non plus, mais elles sont forcément accompagnées l'une par l'autre. Quand une se termine, l'autre débute, et quand l'autre débute, l'autre se termine.
Au niveau énergétique aussi, alors, donc là on parlait plus du côté physique avec tout ce qui est cellules, par exemple les neurones aussi, tu m'avais dit la dernière fois qu'il y avait les neurones qui meurent et puis après qui se renouvellent, enfin il y a aussi le côté énergétique.
Oui. Il y a aussi le côté énergétique. En médecine chinoise traditionnelle, il parle de 5 mouvements, en fait. Des mouvements qui sont associés à des saisons, à des couleurs, et qui sont associés aussi à tout un cycle, en fait. On est, par exemple, le premier mouvement, qui est celui du bois, en fait, qui est celui de pouvoir éclater, sortir, pousser pour pouvoir sortir de la terre, va mener justement à un autre cycle qui est le cycle du feu, qui est donc le bois est la naissance, le feu est vraiment voilà l'adolescence, la vie, la fleur de l'âge, pour ensuite justement venir à maturation, où on est peut-être autour aussi du cycle de la nature dans tout ce qui est l'automne, où on commence au niveau de l'âge aussi à être autour de la cinquantaine, de la soixantaine. Et puis pareil, on continue jusqu'à l'élément du métal, où là on commence effectivement à entrer dans la sénescence et où on est dans une phase aussi plutôt froide en fait dans les saisons, pour en terminer en fait dans justement l'élément de l'eau, et l'eau représente en fait la mort en médecine chinoise traditionnelle, et pour ensuite pouvoir renourrir en fait le bois qui va refaire un cycle de renaissance. Et donc en énergétique, en tout cas énergétique de la médecine chinoise, on s'appuie sur ces cycles-là qui sont les mêmes en fait dans notre vie, dans notre corps. On va avoir le matin au réveil, le midi, l'après-midi, le soir et la nuit qui sont pareils, ces 5 mouvements, et l'énergie, elle n'a ni fin ni début, et c'est infini. Et dans notre corps, on a aussi ces cycles-là en fait qui fonctionnent énergétiquement parlant.
Est-ce que ces cycles-là, quand même, tu les associes pas mal aux saisons et aux matières minérales, en tout cas dans la médecine traditionnelle chinoise. Et est-ce que c'est du coup, on peut dire que tout est lié, la vie de la terre avec la vie de l'homme?
Tout à fait, la vie de la terre est liée à l'homme, forcément. Ça, on pourrait pas être vivant si on n'avait pas de terre, si on n'avait pas ces minéraux.
Et le cycle de vie et de mort, au final, est un peu le même, en fait, dans la nature. Oui, chez l'être humain.
Effectivement, dans la nature, on retrouve ça au travers des saisons, comme tu le disais, ou au travers d'une plante. Quoi qu'il en soit, effectivement, à un moment ou à un autre, une graine est sous terre, dans l'ombre. On croit qu'elle n'existe pas, mais elle est bien là. Il est en train de se passer quelque chose. Quand arrive de l'eau, suffisamment de lumière, elle va pousser et elle va sortir de terre. Grandir, fleurir, faire des fruits, et puis ensuite se dessécher, se rabougrir et puis mourir. Mais en fait, au final, ce fruit qui se dessèche et cette plante qui meurt, dedans, il y a une graine. Une graine qui ne retourne à la terre et qui va refaire ce même cycle-là.
Bien sûr, et puis ce fruit qui amène aussi la vie pour d'autres espèces.
C'est ça.
Et c'est un cycle infini.
Exactement, un cycle infini.
Alors, on va faire une courte pause musicale et tu as choisi...
Oui, j'ai choisi Comptine d'un autre été de Yann Tiersen, que j'aime beaucoup. Et c'est un morceau qu'on peut retrouver justement dans la bande originale d'Amélie Poulain.
Ok, on écoute ça et on se retrouve juste après. De retour pour l'émission Au bon soin, l'émission du magazine Sané, en compagnie de Claire Vidal qui est kinésiologue à Villeneuve-d'Aveyron. Merci pour le partage.
Avec plaisir, j'aime beaucoup ce morceau. Pour moi, il illustre justement le cycle de la vie et de la mort parce qu'à la fois il porte beaucoup de gaieté et en même temps un petit peu de mélancolie. Donc voilà, je trouvais qu'il illustrait bien le propos du jour.
Oui, effectivement, oui. Alors, on continue un petit peu sur le thème de la mort et de la renaissance. Comme tu nous disais tout à l'heure, il y a plusieurs aspects. Donc, on a abordé l'aspect de la nature, l'aspect du physique. Et on va un petit peu aborder d'autres aspects auxquels on ne pense pas forcément en parlant de mort, en fait, et de renaissance. Donc, l'aspect émotionnel, par exemple.
Alors oui, l'aspect émotionnel, c'est vrai qu'il existe un cycle aussi des émotions. Hein, on a tous des hauts et des bas dans la vie, et c'est relativement naturel. Ça serait même inquiétant s'il n'y avait pas ces hauts et ces bas et ces boucles, ces mouvements, en fait, tout simplement. Hein. Et dans les émotions, en fait, il y a un cycle qui revêt plusieurs étapes, en fait, où quand on ressent voilà, une émotion, en général on la ressent sur le plan physique, donc elle prend vie dans une forme de charge, de décharge, en fait, émotionnelle. Ça, c'est la première étape. Et en deuxième étape, en général, elle va se développer pour pouvoir justement entièrement se vivre après le choc de quelque chose qui va nous faire peur, qui pourrait être la première étape. Il y a une deuxième étape donc, où elle se développe et où on va peut-être pleurer parce qu'on a eu très peur. Et ensuite, quand on aura suffisamment laissé se développer cette émotion-là, la troisième étape, c'est que l'émotion nous apporte un message, en fait. Et ce message-là, pour pouvoir justement nous délivrer tout ce qu'il a à nous dire, et notamment le fait que nous avons un besoin caché derrière notre émotion et que nous avons une action, peut-être, à engager pour pouvoir justement apaiser cette émotion et répondre à ce besoin. Tout ça représente un cycle en fait. Il y a une émotion qui vit et qui doit mourir pour pouvoir laisser place à la compréhension d'un besoin. Et cette compréhension doit mourir pour laisser place à une action qui doit se terminer et laisser place à la prochaine émotion qu'il y a à vivre. Donc en fait, une émotion, elle a besoin de vivre et de mourir pour laisser place à la naissance d'une compréhension profonde qu'un besoin, en fait, est là et que nous avons besoin de le satisfaire. Voilà.
Donc, si on comprend bien une émotion, c'est un peu un messager de quelque chose qu'on a à comprendre.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Une émotion, c'est notre amie. Voilà. Puisqu'elle a forcément derrière des indications à nous proposer. C'est vrai que ça peut être une petite gymnastique quand on n'a pas forcément abordé, appris, été éduqué dans le fait qu'une émotion pouvait être une compagne, une boussole en fait pour savoir où aller, quelle décision prendre. Effectivement, une émotion, c'est un messager.
Donc c'est quand même important d'exprimer ces émotions, parce que souvent dans notre société on dit essaie de garder tes émotions pour toi, c'est pas très bien vu si on pleure, si on rigole trop c'est pas non plus très bien vu, il faut toujours se tenir un peu carré, tout ça. Donc quand même ce que tu nous dis et ce qui paraît logique d'ailleurs, hein, c'est qu'il faut vraiment exprimer ces émotions, ou au moins les, s'en rendre compte, essayer de les observer soi-même.
Alors effectivement, avant l'expression, ce qu'il y a de plus important, c'est de pouvoir justement la laisser se développer dans cette deuxième phase-là. Parce que si justement on bloque, on cristallise pour plein de raisons différentes, parce que à ce moment-là, enfant, on n'avait personne pour nous donner un sens sur ce qu'on était en train de vivre, ou bien on laissait pas justement cette place à nous permettre de développer, d'accepter, de recevoir justement pleinement cette émotion, parce que les émotions, pour certaines, sont connotées négatives. Elles ont vraiment des messages à nous donner, avant tout si on les ressent. Voilà, si on les accueille, si on les laisse vivre, si on laisse se développer. Si ça n'arrive pas, effectivement, il y a une cristallisation, ça se coince à l'intérieur de nous en s'associant avec des événements ou des choses qui ont été parfois même pas forcément traumatisantes, mais qui créent en fait un petit caillou à l'intérieur de soi, et en parler au moment où on la vit ou bien plus tard, quoi qu'il en soit, contribue effectivement à la libérer, à nous libérer et à nous permettre justement d'avancer vers ce que l'on voudrait vivre de plus agréable.
Oui, bien sûr. Alors, justement, ça nous amène, le sujet des émotions, sur l'aspect psychologique de la mort et de la renaissance.
Oui, alors en psychologie aussi, on peut aborder via le filtre de la mort et de la renaissance. Beaucoup de personnes vivent des moments compliqués dans leur vie, qui peuvent être une phase de déprime, complètement une dépression, ou bien aussi un burn-out, quelque chose qui fait que on est dans une phase où il y a des idées, des croyances, des désirs qui meurent en fait par rapport à ce qu'on avait comme attente, comme envie. Et ces étapes-là, en fait, dans une vie, quand on les traverse, elles viennent justement apporter une restructuration de ce que l'on est à l'intérieur de soi, ou finalement un peu comme une plante qui partirait dans tous les sens. À un moment, on lui élague quelques petites branches, on la sort de son pot, on lui change la terre parce que ça lui convient plus, elle est plus assez nourrissante, ou bien on coupe un peu les racines pour pouvoir justement faire en sorte qu'elle s'aère. Et après ça, en fait, quand on a traversé ça, quand on a pris le temps d'élaguer ce qui ne nous convenait plus, parfois ça peut se faire dans la souffrance, mais ce n'est pas toujours obligatoire, en tout cas, que ça dure, tout du moins. On peut justement toucher ce fond pour rebondir, voir cette étape en fait, de renouveau, de regain, comme pareil, une nouvelle naissance, une renaissance. Et donc voilà, comme plusieurs choses, il y a deux revers à la médaille, le côté ombre, le côté lumière. Et en psychologie, on a effectivement des phases dans notre vie où certains sont plus sombres, d'autres plus lumineuses. Mais pareil, c'est un cycle en fait, ça se développe de façon naturelle. Donc Avoir une dépression, c'est pas ce que je dis, n'est pas forcément quelque chose, vivre une dépression, quelque chose de naturel, et on devrait tous passer par là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, ça contribue naturellement à un cycle de renouvellement de soi-même, en fait, de sa psyché, de ses intentions, de ses croyances qui structurent, en fait, notre identité. Et elle a sa place, en fait, dans notre mieux-être aussi.
Et c'est peut-être la même chose que les émotions, hein, c'est savoir l'accepter pour pouvoir repartir encore mieux au final.
Tout à fait. L'accueil de cette phase-là et la compréhension pour certains, la reconnaissance aussi de la souffrance pour certaines personnes. Il y a vraiment besoin aussi d'accompagner cette reconnaissance de la douleur morale, physique ou autre. Permet vraiment en fait de s'appuyer en fait sur quelque chose pour pouvoir rebondir dans des nouvelles idées, des nouvelles créativités. Et ça fait partie d'une phase de vie. Qui peut arriver à tout un chacun, oui.
Alors, en parlant de phase de vie, la vie et la mort ont une place très très importante en spiritualité, dans les religions notamment, mais aussi en philosophie. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu ?
Oui, alors très très rapidement, c'est vrai que sur le plan spirituel, philosophique, religieux, on a toute cette symbolique de la résurrection justement, où il y a donc du coup un homme qui est sacrifié sur une croix et qui meurt et puis qui ressuscite. Alors ça, c'est très intéressant, c'est vrai que je ne vais pas donner un cours de théologie là tout de suite maintenant, mais si on le regarde et qu'on le vulgarise un petit peu, tout en gardant un regard sacré sur ce moment-là, on est aussi dans une illustration très propre et des réponses qui peuvent être proposées pour certaines personnes qui en auraient besoin. Faut pas oublier que la religion et la spiritualité peuvent soutenir justement dans des moments de questionnement, de doute, apporter des réponses, mais il s'est quand même passé quelque chose à ce moment-là où symboliquement et physiquement et où physiquement il y a eu une mort et une renaissance au travers de la résurrection. Et puis c'est un principe de vie en fait. La mort est un principe de vie. Ça pourrait être une bonne punchline philosophique. et où voilà, on retrouve aussi des images comme le phénix en fait qui renaît de ses cendres, qui a brûlé en fait dans les flammes de la douleur ou de la souffrance ou des épreuves et qui de ses cendres voilà renaît encore plus beau, encore plus fort, encore plus grand. Et voilà, on peut aussi le trouver dans ces notions dans les philosophies plutôt bouddhistes, tout ce qui est karma, avec voilà ce cycle de mort, de renaissance au travers de la réincarnation, où du coup, on vient réexpérimenter différemment notre âme, notamment vient réexpérimenter différemment cette incarnation, le fait d'être vivant dans notre chair, et après être décédé, et que cela en fait a un cycle infini. Alors, je maîtrise pas le bouddhisme, ça doit bien s'arrêter un moment ou un autre, mais voilà, sur l'aspect spirituel, philosophique, religieux, on retrouve aussi ces notions d'infini, et notamment voilà, cette espèce de 8 couchées qu'on appelle le lémiscate aussi, qui est vraiment le symbole visuel que l'on peut retrouver, qui nous parle en fait de ce cycle vie-mort-vie, de mort-de-renaissance et de l'infini.
Donc on a bien compris que c'était vraiment un cycle, mais un cycle de vie, il faut quand même mettre ça en avant sur tous ces aspects-là. Il y a certes le côté mort, mais il y a le côté renaissance et vie qui est infini. Merci Claire.
Merci à toi Stéphanie de m'avoir accueillie sur ce sujet dont j'ai pris grand plaisir à discuter avec toi. Merci.
Super. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux peut-être ?
Oui. Alors du coup, je redis mon nom. Moi, je m'appelle Claire Vidal. Vous pouvez me retrouver de façon physique. Place du Garrigou à Villeneuve d'Aveyron, du coup, où j'ai mon cabinet. Vous pouvez également me retrouver du coup sur ma page Facebook professionnelle, Claire Vidal Kinésiologue, et sur ma page Google professionnelle aussi, Claire Vidal Kinésiologue. J'ai un site internet aussi sur lequel vous trouverez toutes les informations par rapport à ce que je propose dans mes séances, qui je suis, les tarifs, les témoignages aussi, et mon actualité qui est donc www.aveyron-kinésiologue.fr.
Et on te retrouve dans le magazine Sané qui sort le 10 mars.
Super.
Merci Claire.
Merci beaucoup.